Salut les kids, l'émission pour enfants de Radio G. Lecture, culture, c'est l'heure du temps calme. Bonjour à tous les enfants, bienvenue dans Salut les kids, l'émission pour enfants de Radio G. Pour aujourd'hui, je vous ai préparé une émission spéciale vacances d'hiver, car moi aussi, je prends du repos. Alors, c'est l'occasion de réécouter les meilleures histoires de l'émission, mais aussi de revoir certains mots d'anglais, petit chenapan, sans oublier le labo des sciences. Et oui, ce n'est pas parce que c'est les vacances qu'on ne s'amuse pas. Alors, c'est parti pour l'émission, restez bien au chaud avec Salut les kids.
Oyez, oyez, c'est l'heure du mot d'anglais.
Et le mot du jour, écoutez bien, c'est tree. 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 T-R-E-E. Ça veut dire arbre. Il s'écrit en quatre lettres. Le T, le R, le E et encore le E. Tree. Peut-être connaissez-vous le Christmas tree, qui est l'arbre de Noël ou le sapin de Noël. Tree est souvent utilisé avec des mots de fruits comme apple tree, qui est le pommier, ou lemon tree, qui est le citronnier. Il est donc très facile à utiliser. Même les sapins et toute cette famille sont appelés pine tree. Ce sont les arbres à pin, ceux qui font les pommes de pin. Voilà les enfants, vous avez encore appris un nouveau mot d'anglais qui vous servira, j'en suis sûr.
La grande histoire.
Les habitants de Chouville aiment tous fêter Noël. Mais Grinch le Grincheux, qui habite quelque part au nord de Chouville, a pris en horreur cette fête. Maintenant, ne me demandez pas pourquoi, personne n'en connaît la raison. Peut-être que sa tête n'est pas bien vissée sur ses épaules. Peut-être que ses chaussures sont trop petites et lui compressent les orteils. Mais si vous voulez mon avis, la vraie raison de tout ceci, c'est que son cœur est deux fois trop petit. Bon, quelle qu'en soit la cause, son cœur ou ses chaussures, en cette veille de Noël, Grinch sent sa haine des habitants de Chouville l'envahir. Depuis sa caverne, en haut de la colline, il contemple avec amertume les fenêtres éclairées qui donnent à la petite ville un air de fête. D'horribles grimaces transforment son visage. Il sait qu'en bas, les habitants décorent les maisons en chantonnant. Alors il grommelle. « Demain, c'est Noël. On y est presque. Il faut que je trouve un truc pour arrêter tout ça. » Il sait bien que ce jour est le jour tant attendu. Toutes les filles et tous les garçons vont se réveiller très tôt et seront surexcités. Ils se précipiteront sur leurs cadeaux en poussant des cris de joie. Après ça, tous les habitants, les jeunes et les vieux, vont s'installer ensemble autour d'un grand festin. Ils vont engloutir des tonnes de nourriture. Ils vont se goinfrer de dindes farcies au marron et au lardon, de bûches de Noël à la crème et de chocolat. Et tout cela, ils ne le supportent pas. Et ce n'est pas tout, le pire arrive encore. Les petits et les grands, les maigres et les gros, tous vont se lever de table pour faire une chose plus abominable encore. Ils vont se rassembler sur la place du village, au son des cloches du temple qui sonneront à toute volée. Et là, main dans la main, ils vont se mettre à chanter le même refrain, en entrant dans le temple éclairé par des centaines de bougies. À l'intérieur du temple, ils vont encore chanter à cœur joie. Plus le Grinch y pense, moins il supporte cette perspective. Cela fait 53 ans que ça dure. C'est chaque année la même chose. Maintenant, assez. Je dois trouver le moyen d'empêcher tout ça. Mais comment? Et puis l'idée est venue. Une idée diabolique. Une super idée diabolique. Le Grinch se déguise en Père Noël et appelle son chien Max, une brave bête. Il attelle l'animal à un vieux traîneau tout cabossé, prend quelques sacs vides et se met en route vers Chouville au moment où les habitants ronflent paisiblement. Arrivant à la première maison sur place, le Grinch installe sans bruit son échelle, se hisse sur le toit, avance jusqu'à la cheminée. Il se laisse ensuite glisser le long du conduit, puis pointe son nez hors de la cheminée, juste à la hauteur où les petites chaussettes des choux sont suspendues. Ces chaussettes à cadeaux sont les premières choses à disparaître, dit-il en les mettant dans son sac, avec un plaisir non dissimulé. Le Grinch fait ensuite le tour du salon. Il jette dans son sac pêle-mêle tout ce qu'il trouve. Une paire de rollers, un ordinateur, une poupée, un tambour, une trottinette, un train électrique, des pop-corns, des petites souris en chocolat. Quand tous les sacs sont pleins, il les remonte un par un par la cheminée. Puis, il se dirige vers le frigo et le vide à son tour de tout ce qu'il contenait pour la fête. La dinde avec ses marrons et ses lardons, les cardons et le fromage, la bûche, la mousse au chocolat, tout y passe. Il monte son sac par la cheminée, ravi de ce qu'il vient de faire. Et maintenant, le sapin. Celui-là aussi va passer par la cheminée. Le Grinch hisse alors le sapin dans la cheminée, puis, pour finir en beauté, il emporte aussi la bûche posée sur les chenets. Quel besoin ont-ils d'allumer un feu? De toute manière, il ne fait que 20 degrés au-dessous de zéro, se moque-t-il en s'en allant. Il répète le même scénario dans toutes les maisons de Chouville. Il ne laisse rien derrière lui, à peine une miette de biscuit pour les souris. Sa mission accomplie, il embarque tous les cadeaux, toutes les décorations, tout ce qui pouvait rappeler Noël de près ou de loin et repart sur son traîneau tiré par son chien jusqu'au sommet du mont Crumpit pour jeter en bas du précipice tout son butin. Son énergie pour le soulever est décuplée par la perspective de voir bientôt le désespoir des gens de Chouville privés de Noël. Ils vont se réveiller et je sais exactement ce qui va se passer dès qu'ils connaîtront la terrible nouvelle. Cette année, il n'y aura pas de Noël. Ils vont rester bouche bée une minute ou deux et puis ce sera une grande clameur de tristesse. Bouhouhouhou ! Voilà ce que je me réjouis d'entendre. Ce bruit-là, il me le faut. Il s'arrête un instant et tend l'oreille pour écouter. Il entend un son monter, étouffé par la neige qui continue de tomber. Faible au début, le bruit s'amplifie, mais le bruit n'est pas une lamentation. Pourquoi ? Que se passe-t-il ? On dirait que le son est joyeux. Ce n'est pas possible. Mais ils sont joyeux, vraiment joyeux. Le Grinch se penche pour voir ce qui se passe à Chouville. Il se frotte les yeux car il ne croit pas ses oreilles. Et ce qu'il voit le fait trembler d'effroi. Quelle surprise ! Le choc est énorme. Les habitants de Chouville, petits et grands, maigres et gros, jeunes et vieux, tous sont là et ils chantent, sans aucun cadeau. Pour être raté, c'est vraiment raté. Le Grinch n'a pas réussi à arrêter Noël. Noël est bel et bien là. D'une manière ou d'une autre, Noël est arrivé, toujours le même. Et le Grinch, les pieds à moitié gelés dans la neige, est complètement perturbé. Il reste là sans bouger. Comment est-ce possible ? Noël est là. Comment a-t-il pu arriver sans sapin, sans ruban, sans guirlande, sans boule, sans cadeau, sans chaussettes, sans bon repas ? Et le Grinch retourne et retourne cette question dans sa tête pendant 3 heures, sans trouver la réponse. À moins que ? Peut-être, après tout, que Noël ne vient pas des magasins ? Peut-être oui, peut-être que Noël c'est autre chose, quelque chose qui vient de plus loin. Peut-être que Noël est plus que tout ce commerce. Aujourd'hui, les habitants de Chouville racontent que ce jour-là, le cœur du Grinch a grandi de 3 tailles au moins. Et il raconte que, dès que son cœur eut assez de place pour battre au rythme de Noël, il redescendit du mont Crumpit avec son traîneau et tout son chargement, les cadeaux, les décorations et la nourriture pour la fête. Il fit même une chose que personne n'avait jamais vue. C'est lui-même, le Grinch, qui découpa la dinde au marron. Fin de l'histoire.
La grosse histoire.
C'est l'heure de la deuxième histoire, les enfants, celle de Kirikou et les ombres, écrite par Michel Osselot.
La deuxième histoire.
La grande fille et Boulette, sa meilleure amie, jouent ensemble. Il s'agit d'habiller le mieux possible leur poupée. La grande fille est très contente de la tenue élégante de sa poupée. Elle veut en faire autant avec la poupée de Boulette, mais celle-ci souhaite l'habiller à sa manière. Tirant chacune la poupée de son côté, les deux filles se disputent et la cassent. Boulette fond en pleurs. Kirikou, qui les observait, intervient. « Ne pleure pas, je vais te la réparer. »« Tu es trop petit pour réparer une poupée ?» pleurniche encore Boulette. « Mais non !» s'écrie Kirikou en détalant vers sa case. « Tu vas voir. » Kirikou revient avec une calebasse remplie de toutes sortes d'objets. « Que viens-tu faire avec cette poubelle ?» demande la grande fille. «
Ce n'est pas une poubelle, explique Kirikou. C'est le contraire, un fourre-tout. J'y mets tout ce que je ne veux pas jeter. Boulette examine le contenu. Des plumes, des bouts de raffia, des noyaux, de la paille, des gousses de capoque vides, des calebasses cassées. Il n'y a rien d'utilisable. On ne sait jamais, dit Kirikou. Et il raccommode la poupée avec les bouts de tissu de son fourre-tout. Elle est toute tordue, critique Boulette. Kirikou acquiesce, mais il ne se décourage pas et réessaie. Pas la peine, dit la grande fille, tu n'y arriveras pas. Si je recommence plusieurs fois, j'y arriverai, rétorque Kirikou. Mais j'ai mieux à faire, une nouvelle poupée. Kirikou fouille dans son fourre-tout et sort de la paille, du raffia, deux haricots noirs, des brindilles. Les filles sont intriguées. D'autres enfants viennent voir ce que Kirikou fabrique encore. En peu de temps, les déchets sortis de la réserve de Kirikou ont disparu, transformés en poupées rigolotes. Des enfants applaudissent. « Cette poupée est trop petite !» grogne Boulette et la grande fille. Et elle fouille dans le fourre-tout de Kirikou pour en fabriquer une autre. Le grand garçon se joint à elle. Tous les enfants sont autour. « Eh, du calme !» s'écrie Kirikou. « Vous pouvez prendre deux ou trois choses, mais il ne va pas y en avoir assez pour tout le monde. Faites-vous un fourre-tout à vous, avec toutes ces choses qui pourraient servir que l'on jette d'habitude, on ne sait jamais. » Les enfants s'affraient dans le village, à la recherche de tout ce qu'on néglige mais qui pourrait servir, on ne sait jamais. Pendant ce temps, Kirikou continue à confectionner des figurines. Les enfants reviennent, chacun avec sa calebasse remplie d'objets hétéroclites. « Il n'y a pas que les poupées, » dit Kirikou. « On peut aussi confectionner des guerriers, des animaux, des monstres, des fétiches. » Excités par tout ce que Kirikou peut faire avec presque rien, les enfants imaginent et fabriquent à leur tour toutes sortes de personnages. Puis ils jouent avec eux et inventent des histoires. Le soleil se couche, une femme allume le feu. « Oh, il va falloir s'arrêter, » regrette Kirikou. « On jouait si bien. » Mais la mère de Kirikou, qui observait les enfants, intervient. « Au contraire, avec la nuit, vous jouerez encore mieux. Vous pouvez offrir un spectacle au village en faisant un théâtre d'ombre. » Elle explique ce qu'on faisait dans le temps, quand les hommes étaient là. On tendait un grand pagne devant un bon feu. Des hommes se cachaient plus bas que le drap et ne montraient que leurs mains ou des marionnettes qu'ils tendaient et faisaient bouger. De l'autre côté du drap, les spectateurs ne voyaient que les ombres des personnages, qui n'étaient pas vrais mais auxquels ils croyaient passionnément le temps d'une histoire racontée. C'était magique. « Oh oui !» s'exclame Kirikou. « Faisons un théâtre d'ombre !» Dans son domaine gris et noir, Caraba la sorcière appelle « Fétiche Pierre !» D'un gros caillou sortent des pattes, des bras, une tête comme de la carapace d'une tortue monstrueuse. Le fétiche Pierre se hâte de ses six pattes jusqu'à sa maîtresse. « À la faveur de la nuit, tu iras au village sans que l'on te voie. Et le moment venu, quand personne ne se méfiera, saisis-toi de Kirikou et ramène-le-moi, mort ou vif !» Les enfants sont enthousiasmés par l'idée de faire un spectacle avec tous les personnages qu'ils ont confectionnés. Ils dînent à la hâte et se mettent au travail, aidés par l'oncle et la mère. L'oncle plante deux longues lances de chaque côté du banc du vieillard et fixe en haut une lance à l'horizontale. La mère y tend un grand pagne clair, les enfants s'accroupissent derrière. « C'est bien, on ne les voit plus. » Le vieillard intervient. « Mais que faites-vous avec mon banc ?» « La nuit, tu n'es pas assis sur ton banc, » dit la mère. « Les enfants font du théâtre d'ombre, comme dans le temps. Cela fera plaisir à tout le monde. » Le vieillard grogne pendant que les enfants discutent à voix basse de l'histoire, font des essais. Les ombres sur l'étoffe sont magnifiques. Kirikou observe que, lorsqu'on éloigne les marionnettes de la toile vers la lumière du feu, les ombres grandissent. Ils vont pouvoir faire une souris qui deviendra grosse comme un éléphant. Ça y est, ils sont prêts. Kirikou se précipite et crie dans tous les coins du village. « Attention, mesdames et messieurs, dans quelques instants, la grande représentation théâtrale va commencer. Du rire, du drame, de l'épouvante et du rêve. À ne manquer sous aucun prétexte. » Les villageois, impatients de découvrir ce que les enfants ont comploté toute la journée, se précipitent et s'installent joyeusement devant l'écran. Et le spectacle commence. Les enfants accroupis derrière le banc s'embrouillent un peu, mais c'est un succès. Plus les jeunes marionnettistes se trompent, plus le public est heureux. Kirikou se démène, mais au milieu des rires et des applaudissements, il lui semble entendre un petit bruit qui ne fait pas partie de la fête. Il regarde alors discrètement par le côté du banc. La route est vide, à part un caillou. Un gros caillou sur la route? Mais il n'y en a pas d'habitude. Et il regarde de nouveau sur le côté. Non seulement il y a un gros caillou sur la route, mais en plus ce caillou a avancé. Caraba a encore envoyé un fétiche sous forme qui n'attire pas l'attention. Il faut agir, vite! Continuez à jouer et ne paniquez pas, dit-il aux autres marionnettistes à voix basse. Un fétiche bien déguisé est en train d'entrer dans le village. Nous allons lui faire peur en apparaissant nous-mêmes en nombre et en devenant des géants. Je commence, puis faites comme moi. Kirikou se lève alors lentement. Son ombre est déjà celle d'un géant. Un misérable fétiche approche, et nous, les mangeurs de fétiches, nous allons le dévorer. Les enfants se relèvent, reculent vers le feu. Leur ombre grandissent démesurément. Un misérable fétiche s'approche, et nous, les mangeurs de fétiches, nous allons le dévorer. Ce fétiche-ci, c'est tout de suite que je le croque, ajoute Kirikou. Et joignant le geste à la parole, il mange réellement la marionnette brandie, faite de fruits et de légumes. Le public enthousiaste applaudit, et le fétiche ouvre des yeux effarés. Épouvanté, il fait demi-tour et s'enfuit. Au bruit qu'il fait, les spectateurs se retournent et découvrent que ce n'était pas du théâtre. Ils venaient d'échapper à un fétiche qui disparaît par la route des flamboyants. Ils acclament Kirikou, dont la vigilance et l'astuce ont encore fait merveille. Caraba demande impatiemment au fétiche bredouille « Où est Kirikou ?»« Maîtresse vénérée, Kirikou est devenu un géant, entouré de géants encore plus grands. Ils ont failli me dévorer. Heureusement, je cours vite. »« Qu'est-ce que c'est que ces sottises ?» hurla Caraba. « C'est vrai, puissante maîtresse, j'ai vu tout cela d'ici, » s'écrie le fétiche sur le toit. « Et je continue à voir toutes sortes de géants qui dansent dans une boîte de lumière. Au village, tout le monde chante et danse autour du feu. » Et les ombres immenses des villageois se projettent sur l'écran du théâtre. Kirikou est acteur, les fétiches ont peur. Nous faisons des miracles, ça c'est du spectacle. Fin de l'histoire. Maintenant les enfants, on se rejoint dans le labo des sciences.
Approchez les enfants. Bienvenue dans le laboratoire de Salut les Kids. Est-ce que vous êtes prêts à percer les mystères de la science ?
Aujourd'hui, on va partir à la découverte des nuages. Vous avez déjà levé les yeux au ciel et vu ces drôles de boules cotonneuses qui flottent tout là-haut ? Ce sont des nuages, mais pas n'importe lesquels. Ce sont des nuages magiques. Les nuages ne sont pas faits de coton et de mousse, comme on pourrait le croire. En réalité, ils sont faits de tout petits morceaux d'eau ou de glace que l'air fait tourner et transporte dans le ciel. Quand l'eau de la Terre s'évapore et monte dans l'air chaud, elle se transforme en petites gouttelettes ou en cristaux. Ces petites gouttes se regroupent pour former un nuage. C'est un peu comme si vous souffliez doucement sur une vapeur de soupe chaude et que vous voyez la brume se former. Il existe différents nuages. Par exemple, les cumulus. Ce sont les gros nuages blancs et moelleux, un peu comme des boules de coton. On les voit souvent par beau temps, quand le ciel est bleu, et ils aiment prendre des formes rigolotes, comme des animaux ou des châteaux grâce à notre imagination. Il y a aussi les nimbostratus. Eux, ce sont des nuages tout gris, tout épais, et ils aiment bien cacher le soleil. Si vous les voyez, c'est souvent qu'il va pleuvoir. Alors, il faut prévoir un parapluie. Pour terminer, les cirrus. Ce sont des nuages tout fins et tout légers comme des fils. Ils sont très hauts dans le ciel et ils annoncent souvent que le temps va changer. Et vous savez quoi ? Les nuages sont très malins. Ils nous prévoient souvent le temps qu'il va faire. S'ils sont tout gris et bas, il va probablement pleuvoir. S'ils sont tout blancs et moelleux, le temps sera plutôt beau. Les nuages voyagent aussi avec le vent et ils peuvent nous faire des surprises. Parfois, ils arrivent très vite et parfois, ils restent là-haut. À jouer à cache-cache avec le soleil. Alors la prochaine fois que vous regardez le ciel, souvenez-vous, les nuages sont là pour nous dire plein de choses sur le temps et ils sont un peu comme des artistes, dessinant des formes et des histoires dans le ciel.
La grande histoire.
Au bord de la rivière Wisła, en Pologne, sur le flanc d'une haute montagne, s'ouvre une grotte profonde et obscure. On dit qu'autrefois, cette grotte était habitée par le plus fort et le plus terrible des dragons. Un dragon énorme à l'appétit vorace qui ne dédaignait aucune nourriture, ni les poules, ni les brebis, ni les chevaux, ni même les hommes. Le jour, l'horrible bête semait la terreur dans les champs et dans les rues. La nuit, ses ronflements faisaient trembler la montagne et empêchaient de dormir les habitants du voisinage. Tous, hommes et animaux, vivaient dans la crainte et l'effroi.
la tristesse et le malheur avaient envahi les cœurs. Les habitants, qui n'en pouvaient plus, allèrent trouver leur roi. « Ce dragon nous terrorise !» se plaignirent les paysans. « Nous n'osons plus aller travailler dans nos champs. »« Nos troupeaux sont massacrés !» reprirent les bergers. « Nos chiens sont impuissants devant ce monstre. Il faut absolument le tuer. Nous ne pouvons pas laisser nos enfants jouer dehors. Ils n'arrêtent pas de pleurer. Aidez-nous !» Le roi les écouta tous attentivement, hocha la tête puis annonça solennellement « Le temps est venu d'aller combattre le dragon. Je promets une splendide récompense à celui qui réussira à débarrasser le pays de ce cracheur de feu. » Un noble chevalier s'avança et se déclara prêt à combattre la bête. Il revêtit son armure la plus solide, prit sa lance la plus longue et enfourcha son cheval le plus rapide. Il n'était même pas arrivé au sommet de la montagne que le dragon souffla un jet de flamme sur le courageux jeune homme qui roula au fond d'un gouffre. Tour à tour, les hommes les plus valeureux du royaume affrontèrent en vain la bête horrible. Aucune arme ne réussit à atteindre le dragon. Les flèches glissaient sur sa peau, les épées se tordaient, les lances se cassaient comme des allumettes entre ses dents. Beaucoup de guerriers perdirent la vie. Les habitants commençaient à désespérer quand, un matin, un jeune berger prénommé Crac demanda audience au roi. Les courtisans, stupéfaits, virent s'avancer vers le trône un jeune garçon pauvrement vêtu. Lorsque Crac expliqua au roi qu'il voulait combattre le dragon, tous éclatèrent de rire. « Comment oses-tu prétendre réussir là où tant d'hommes courageux ont échoué ? Où sont ses armes, son casque, où est son cheval ?»« Sire, dit le jeune berger sans se démonter, faites-moi confiance, vous ne le regretterez pas. » « Laissons-lui tenter sa chance, décida le roi. S'il parvient à nous débarrasser du dragon, je lui donnerai la main de la princesse, ma fille. » Le jeune Crac s'inclina profondément devant le roi et sortit. De retour chez lui, Crac prit des braises chaudes dans l'âtre et la peau d'un mouton qui venait de mourir. Puis il se dirigea vers la montagne. Arrivé devant la grotte du dragon, il sortit la peau de mouton de son sac et y fourra les braises encore fumantes. Vite, il déposa le mouton à l'entrée et alla se cacher derrière un rocher. Le dragon ne tarda pas à se réveiller. Tenaillé par une énorme faim, il sortit de sa grotte avec un terrible grognement. Dès qu'il vit le mouton, il se jeta sur lui et l'avala d'une bouchée. Mais aussitôt, une terrible douleur lui brûla le ventre. Hurlant, soufflant et crachant, le dragon se précipita vers la rivière. Ouvrant grand sa gueule, l'horrible bête but sans s'arrêter pendant des heures, dans l'espoir d'éteindre l'incendie qui lui dévorait les entrailles. Toute l'eau que le dragon avait engloutie, chauffée par les braises ardentes, se mit à bouillir. La vapeur lui dilata le ventre qui, avec un énorme « bang !», éclata comme un ballon. Alors le jeune Crac sortit de sa cachette et appela les habitants de la ville. Hommes, femmes et enfants acclamèrent le jeune berger, l'aidèrent à tirer la dépouille du dragon hors de l'eau et dansèrent autour une joyeuse farandole. Le roi vint féliciter Crac pour son intelligence et son courage et, comme promis, lui accorda la main de sa fille. C'est ainsi que Crac, le jeune berger, débarrassa le pays du dragon et épousa la fille du roi. Quelques années plus tard, il devint roi à son tour. Il n'oublia pas les malheurs qu'avait causés le dragon et, pour mettre pour toujours ses sujets à l'abri, il entoura la ville de puissantes murailles. C'est ainsi qu'au bord de la rivière Wisła en Pologne se dresse aujourd'hui une superbe cité aux remparts solides. Elle porte le nom de Cracovie en souvenir du jeune Crac qui sauva ses habitants. Fin de l'histoire.
Salut les kids, c'est l'émission pour enfants de Radio G. Retrouvez-moi Nicolas un mercredi sur deux à 13h. Salut les kids, c'est une émission fun et éducative, avec de la lecture et de la culture. Toi aussi, viens t'amuser avec nous sur le 101.5 FM. Allez, salut les kids.
Oyez, oyez! C'est l'heure du mot d'anglais.
Et le mot d'anglais du jour, écoutez bien les enfants, c'est soft. Je répète, soft. Soft. S-O-F-T. Ça veut dire mou. Et ça veut dire aussi doux. Il s'écrit en quatre lettres. S, O, F, T. Soft. Comme dans la phrase « le ballon est mou ». En anglais, « the ball is soft ». Souvenez-vous les enfants, dans l'émission précédente, vous avez appris le mot « ball » qui veut dire « ballon ». Eh bien, vous pouvez ajouter les deux et dire « softball ». Le softball est un sport de balle souvent pratiqué aux États-Unis, où il faut frapper une balle avec une batte. Vous remarquez les enfants à quel point l'anglais c'est facile ? Pour vous amuser, j'ai une surprise avec une comptine anglaise. Elle s'appelle Submarine. On écoute.
Submarine, submarine, take me deep into the sea. Allow little fish, I'm the big one, and fluff carrots, it's with me, Lucive, submarine.
Je suis sûr que vous la connaissiez tous. Elle est souvent apprise dans les écoles. C'est tout pour aujourd'hui, les copains, et n'oubliez pas que l'anglais, c'est tous les jours que l'on peut s'en servir. Et maintenant, je vais vous conter l'histoire du loup aux yeux jaunes.
Elliot, tu crois que c'est la dernière histoire ?
Oui, chut.
Le petit Neil n'a plus de parents. Il habite dans une roulotte avec son oncle Triste et sa tante Misère qui ne l'aiment pas. Tous les soirs, oncle Triste monte le chapiteau et tante Misère astique sa boule de cristal où elle lit l'avenir. Les gens viennent trouver tante Misère pour savoir ce qui va leur arriver. Tante Misère regarde dans la boule et les gens qui sont venus pleins d'espoir repartent souvent en pleurant parce que tante Misère ne voit que les choses tristes dans sa boule de cristal. Neil nettoie les cages des animaux. Il y a quatre singes qui lui tirent les cheveux, trois chevaux qui essaient de le mordre, deux lamas qui lui crachent à la figure et un lion qui rugit comme s'il voulait le dévorer. Pourtant, ces animaux-là sont bien nourris parce qu'ils travaillent pour le cirque. Ils dansent, ils font des pirouettes ou ils sautent dans des anneaux. Seul le loup aux yeux jaunes n'est pas bien nourri parce qu'il ne sait rien faire. Il est maigre et tout hérissé. Souvent en cachette, Neil lui donne la moitié de son repas. Aussi, quand le loup regarde Neil, il ne montre jamais les dents. Et ses yeux jaunes deviennent dorés quand Neil lui gratte la tête à travers les barreaux de sa cage. Un soir, comme chaque soir après le spectacle, tante Misère compte son argent. Oncle Triste enferme les animaux. Puis, ils s'en vont dîner avec les trapézistes en disant à Neil « Tu mangeras les restes, nettoie la roulotte en attendant. » Alors Neil secoue les châles et les tapis. Il essuie les meubles et il commence à balayer. Et comme chaque soir, Neil pense « J'en ai assez de mon oncle Triste et de ma tante Misère. Un jour, j'ouvrirai la cage du loup aux yeux jaunes et je casserai cette boule de cristal où on ne voit que du malheur. » Soudain, le balai de Neil heurte la table. La boule de cristal se met à rouler. Elle tombe et elle se brise. Neil est épouvanté, mais voilà que de la neige sort de la boule brisée. Neil la pousse dehors avec son balai. Mais la neige tourbillonne, elle recouvre les châles, les tapis, elle recouvre la roulotte, les arbres et le chapiteau du cirque. Et soudain, devant la roulotte, Neil voit le loup aux yeux jaunes. Comment est-il sorti de sa cage ? Le loup dit « Monte sur mon dos, Neil, il est temps que je t'emmène loin d'ici. » Neil bondit sur le dos du loup, qui se met à galoper en faisant voler la neige derrière lui. Il traverse des campagnes désertes, des villages endormis. Il croise des trains silencieux et ils arrivent enfin dans une forêt profonde où des sapins blancs brillent sous la lune. Le loup ralentit sa course et il dit « Nous sommes arrivés. » Il s'arrête devant une petite maison aux fenêtres éclairées. Le loup dit encore « Grimpe sur mon dos et dis-moi ce que tu vois. » Neil répond alors « Je vois un homme grand et une femme petite. Ils ne mangent pas la soupe qui est dans leur assiette. Ils ne boivent pas le vin qui est dans leur verre. » Le loup lui dit « C'est là, entrons. » En les voyant, la femme dit « Mon Dieu, voilà l'enfant qu'on attend depuis 7 ans. » L'homme dit « Entrez, entre toi aussi, loup aux yeux jaunes. Vous devez être fatigué, mangez et buvez. Il y a si longtemps que nous attendons un enfant. » Et la femme dit « Mais nous allons rattraper le temps perdu, et puisque nous voilà 4, nous serons 4 fois plus heureux à présent. » Fin de l'histoire.
Et c'est la fin de cette émission. Salut les kids. Salut les kids. C'était l'émission pour enfants de Radio G. Retrouvez-nous en podcast sur le site www.radio-g.fr.
Radio G.